Dans le panier de Lisa, Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour et bienvenue dans cette émission. Comme une fois n'est pas coutume, quand il y a 5 lundis dans un mois, Lisa va faire une émission supplémentaire au milieu du mois. Alors, il fallait bien la faire parce que je ne vous avais pas parlé des livres que j'ai lus en 2025 et qui ont été littéralement des coups de cœur. Voilà, c'est ce dont on va parler. Alors, pas de tous en profondeur, en plus je vous en ai parlé dans l'année, mais je vais les citer et j'ai sorti, on va dire, les 6 qui m'ont le plus plu. Et je vous citerai bien sûr les 6 autres, hein, puisqu'il y en a 12 au programme de 2025. Hein, c'est quand même des coups de cœur. 12, c'est quand même pas mal. Et puis écoutez, on va commencer en musique en priorité. Comme d'habitude, avec Françoise Hardy. Alors, comment te dire adieu ? On va dire qu'il y a quand même un mot dans le titre de la chanson qui rappelle un titre. Et en tous les cas, le premier. Voilà. Alors comment lui dire adieu ? Ah bah on ne sait pas, mais malheureusement elle nous manque. Hein, et oui. Alors c'était Françoise Hardy avec Comment te dire adieu. Alors désolé pour la voix, je pense que vous avez entendu, je parle extrêmement doucement, Lisa a un peu cassé sa voix. C'est l'hiver. Voilà. Oui, oh bah écoutez, les variations de température, hein, de passer de moins 5 à plus 15, c'est compliqué pour la voix. Ah bah la mienne, elle a un peu lâché. Voilà. Donc on va faire avec ce qu'on peut. Hein, voilà. Donc à pas partir dans les trucs un peu foufou, hein, Lisa, aujourd'hui. Alors le premier roman de mon top 12 de l'année, en vérité, est un livre d'histoire. Qui s'appelle Le Temps des Loups de Harald Janer. Je ne vous en parle pas ici parce que c'est un livre d'histoire. Je ne suis pas sûre que tout le monde apprécie ce genre de livre. Mais enfin, en tous les cas, si vous voulez en savoir plus sur la période 45-55 en Allemagne, donc post-Seconde Guerre mondiale, écoutez, allez-y. Voilà, vous pouvez y aller, c'est extrêmement bon. Après, attention, c'est un livre d'histoire, c'est un essai, hein, donc c'est très 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 fourni. Franchement, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé. Après, la bestiole aimant cette période, pas compliqué. Alors, le premier roman, en vérité, qui arrive, donc qui est numéro 2 dans le classement du top 12, mais qui est premier roman, c'est incontestablement adieu Colima. Oui, adieu, comment te dire adieu. Oui, ah bah vous avez vu, hein, Lisa a repris ses habitudes. De Antoine Sénanque. Alors, je vous avais parlé d'Antoine Sénanque en 2024 pour Croix de Cendre, que j'avais vraiment adoré. Et là, bah écoutez, je pense que Antoine Sénanque va être régulièrement dans mes piles à lire. En tous les cas, cette année, je vais essayer d'en recaser un ou deux, voire trois. Parce que c'est une écriture qui me plaît, c'est un univers qui me plaît. Alors là, nous sommes avec une jeune femme qui s'appelle Scylla, qui est en fait rescapée des goulags, qui est, on va dire, la petite main d'un mafieux russe et qui, pendant des années, a tué pour lui. Et depuis, un certain événement que je ne peux pas vous dire, parce que sinon bah, je vous révèle tout le film, enfin tout le livre en tous les cas, qui fera un excellent film, et bien elle se cache à Budapest. Elle a été adoptée par un homme qui est un ancien détenu, qui est un ancien, on va dire, petit délinquant, en tout cas un vieux maintenant délinquant, et il va se trouver que cette jeune femme va se retrouver dans une espèce de vengeance entre deux frères, puisqu'elle a servi l'un pour après aller travailler avec l'autre, et leur vengeance va passer par elle. Et en fait, une des vengeances qui pèse sur sa tête, c'est tout simplement qu'elle ne peut pas avoir de relation avec qui que ce soit, parce que dès qu'elle aime quelqu'un, un des deux frères dégomme cette personne. Et nous, on va suivre tout le cheminement qu'elle a eu à la Colima, donc dans les goulags de la Colima, donc dans la Sibérie orientale, vraiment, et qui est vraiment une très belle histoire, vraiment. Il y a une très belle histoire d'amour, il y a beaucoup de choses qui se passent. On part de Budapest à Paris, de Paris à Moscou, de Moscou à Saint-Pétersbourg, de Saint-Pétersbourg à la Colima. Franchement, on voyage, et avec cette écriture absolument magnifique qu'a Antoine Sénanque. Vraiment, c'est un livre que je n'ai pas pu quitter. Et qui m'a un peu serré le cœur par moment, donc c'est peut-être pour ça qu'il se retrouve premier. Le deuxième, c'est Le Pont sur la Drina de Ivo Andrić. Alors c'est une fresque absolument incroyable sur presque 400 ans de construction d'un pont entre deux rives, et deux rives qui en fait sont les d'un côté la Serbie, de l'autre côté la Bosnie. On sait ce qui est arrivé après, mais là il explique Ivo Andrić l'histoire non seulement de ce pont, mais avec des personnages fictifs, l'histoire de cet endroit, et qui va développer de l'Empire ottoman jusqu'à l'Autriche-Hongrie, en passant par les bouleversements de la Première et la Seconde Guerre mondiale, puis de la Yougoslavie, puis de l'ex-Yougoslavie, tout ce qu'il y a pu avoir autour de ce pont-là, sur la Drina, et autour de cette ville qui est enfin une des deux villes dont on parle à un moment donné, qui est l'une des plus belles villes du coin. Et franchement, c'est un livre que je n'aurais pas lu si je voulais lire Ivo Andrić depuis un moment, mais une de mes consoeurs, en fait, écrivaine, m'a dit « Oh, écoute, il faut que tu lises celui-là de Ivo Andrić en priorité. Toi qui aimes l'histoire, toi qui aimes ce genre de choses, tu vas vraiment, vraiment beaucoup aimer. » Bah, c'est pas trompé. Voilà. On plonge vraiment dans 400 ans de construction d'un pont. Alors, entre la construction, les personnages qui arrivaient, les événements historiques, etc., et les petites choses de la vie, franchement, c'est un très, très grand roman. Et on comprend pourquoi le monsieur est forcément célébré un peu partout. Nouvelle pause musicale. Oui, oui, parce que Lisa, elle a besoin de reposer sa petite voix. Elle a senti que ça vrillait. Vous avez senti un moment donné, j'ai senti que ça vrillait. On va écouter Florent Pagny avec Le Soldat. Et on va parler de deux livres qui ont trait à la seconde et pas à la première. Parce que là, dans la chanson de Pagny, c'est la Première Guerre mondiale. Mais nous, on va parler de deux romans qui parlent, entre guillemets, grandement de la Seconde Guerre mondiale. On va dire presque entre le début et la fin. C'est vraiment... ah oui, c'est l'aurore et le crépuscule. Ah bah, vous allez voir.
À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat, la la, la 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 la. La 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 la, mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La la la, la 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 la, et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison, et la fleur au canon, ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi. Mais je ne pleure pas, car je suis un soldat. La 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 la. Et surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La 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 la. Tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats, je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Mais je suis un soldat. La 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 la. Je ne sens plus mes bras, tout tourne autour de moi. La 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 la. Mon Dieu, sors-moi de là. Très chère Augustine, j'aimerais te confier nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois. Je ne suis qu'un soldat. La 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 la. Non, je ne reviendrai pas. Je n'étais qu'un soldat. La 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 la. Prends soin de toi.
C'était donc Florent Pagny avec Le Soldat. Alors on va parler de deux livres. Le premier, c'est Doppelganger de Gerard Guix, qui est un auteur catalan que j'aime beaucoup. C'est un livre assez particulier. Attention, c'est une pavasse hein, de presque 770 pages. Avec un format assez grand en plus. Donc voilà, ça peut, si vous le mettez à la format habituel, ça fait à peu près 1000 pages. Qui est un livre assez étrange, puisque c'est un livre qui est qui compare, entre guillemets, qui raconte le crépuscule du Troisième Reich. En fait, on est à la fin avril 1945, Hitler est dans son bunker, c'est bientôt son anniversaire, et on va dire ses derniers fidèles décident de lui offrir quelque chose de particulier, et comme il était très féru d'astrologie et comme beaucoup de dignitaires nazis d'ésotérisme, etc., il décide de lui offrir son horoscope. Simplement, la personne qui va aller auprès de la voyante pour faire son horoscope se trompe de date. Ah bah si, oh non mais c'est ballot. Voilà, parce que la personne qui y va lui dit, en fait, bah il est né le... non mais j'en rigole parce que voilà, mais ça part d'une très très bonne idée. En fait il lui dit, il est né le 16 avril 1889. Et c'est vrai, il est né en avril 1889, mais pas le 16, le 20. Le 16 est né un certain Charlie Chaplin. Oui. Alors évidemment... cette histoire va comparer, entre guillemets, les deux destins de ces deux hommes qui sont nés à 4 jours d'intervalle, la même année, le même mois, qui ont une trajectoire assez différente. Hein. Il y en a un artiste, l'autre c'est le dictateur. Et puis on connaît bien sûr le film Le Dictateur fait par Charlie Chaplin pour se moquer et dénoncer le régime d'Adolf Hitler. Mais à travers ce livre-là, qui est vraiment le crépuscule hein, du régime, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de similitudes dans leur parcours, dans leur traumatisme d'enfance, dans leur vie, dans leur bon et mauvais côté. Pas tout le monde est mauvais, absolument. Hein. Voilà, donc c'est assez étrange, mais c'est très très bien écrit. C'est fou, c'est foutraque, c'est loufoque. C'est très bien documenté, parce que j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Gérard Guiche, et surtout de lui en parler avec lui. Et franchement, voilà, ça fait 15, il a porté ce projet 15 ans, parce qu'il a lu mais vraiment énormément de livres sur les deux personnages de son roman. Après, effectivement, c'est un roman, donc il a dit que effectivement il avait inventé des dialogues qui n'existaient pas, qu'on ne savait même pas ce qui s'était dit dans un bunker. On est bien d'accord sur la question, mais franchement c'est très très bien fait, vraiment très bien fait, c'est addictif. Et je vous dis, ça part un peu tous azimuts quelquefois. Le personnage qui narre cette histoire est très surprenant, et je ne peux pas vous dire qui, sinon ça vous spolier beaucoup de choses dans le roman. Mais franchement, c'est un truc à vraiment lire. Ça s'appelle Doppelganger, donc c'est aux Forges Vulcain. Vous ne pouvez pas tromper, la couverture est double. La première de couverture, c'est un espèce de le dictateur, en vérité, un dessin de Adolf Hitler, une caricature, et en quatrième, il a un nez rouge. Voilà, ça vous pose bien les deux personnages qui sont centraux dans ce roman. Le deuxième, c'est Ces féroces soldats, de Joël Egloff. Alors, cette fois-ci, ça revient en fait sur l'histoire des Malgré nous, et l'auteur parle de son grand-père, de son père, etc., de ces gens qui, en Alsace-Lorraine, et principalement en Alsace, mais en Alsace-Lorraine, ont, au gré des guerres, des traités, des armistices, des conventions, des machins, des prises de guerre, sont passés un côté allemand, un côté français, un côté allemand, un côté français à chaque fois, et qui, au début de la Seconde Guerre mondiale, vont être enrôlés pour certains de force dans les unités SS et Waffen-SS. Alors, il y en a dans la Wehrmacht aussi, hein. Mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont été reversés dans ces unités d'élite. Enfin, élite, tout est relatif. Enfin, bon, elles étaient des unités d'élite. Et qui, en fait, se battaient dans un camp qu'ils n'avaient pas choisi et qui n'était pas le leur. Voilà. Alors, bien sûr, hein, il y en avait certains qui étaient d'accord avec l'idéologie nazie, mais les trois quarts, pas du tout. Et il revient sur l'histoire de sa famille à travers les destins des hommes et des femmes aussi, parce que les femmes ont aussi pris quelques rafales. Mais franchement, c'est un très, très, très beau livre. C'est Ces féroces soldats. Franchement, c'est un plaidoyer aussi pour le pardon de certaines choses qui se sont passées quand malheureusement vous êtes contraints et forcés, puisque ces jeunes gens ne faisaient pas ce qu'on leur disait, de s'enrôler et d'aller à l'ennemi tuer d'autres personnes, c'était leur famille qui était déportée. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, mais vraiment c'est un très très beau livre, Ces féroces soldats, et ça revient sur une période assez sombre qui n'est pas forcément toujours bien comprise par beaucoup. Voilà, on fait une petite pause musicale avec un ABBA. Alors ABBA, c'est j'ai choisi Fernando because le lutin m'a dit qu'il fallait pas que je mette toujours Dancing Queen. Donc j'ai choisi la deuxième chanson. On va parler d'une saga qui arrive, qui est une trilogie, donc qui est le premier tome de la trilogie, et d'un livre, un vieux livre, un très vieux livre, mais que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. On écoute ABBA, Fernando, et on se retrouve juste après.
Fernando, every hour, every minute. that seem to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry.
C'était donc Abba avec Fernando. Alors on va passer donc avec ce premier tome qui s'appelle La Malédiction des Stenson. Et oui, on part en Suède. Oui, d'où Abba. Non, bah écoutez, de Niklas Natochdag. Alors si vous ne savez pas qui est Niklas Natochdag, mais je pense vous en avoir parlé depuis très longtemps, c'est l'auteur de la saga sublime, enfin cette trilogie absolument sublime sur l'après-révolution française en Suède, donc 1793, 1794, 1795, c'est des romans policiers thrillers historiques vraiment de très très haut niveau. Qui s'est lancé dans une nouvelle trilogie qui concerne sa famille. Alors, en vérité, sa famille fait partie, donc Natochdag fait partie des grandes familles nobles suédoises qui remontent au 14e, 15e siècle. Et là, bon, il y a plusieurs autres familles dans son arbre généalogique, d'ailleurs qui est imprimé à l'intérieur de la jaquette de couverture. Et là, il va nous parler du règne de du roi Eric, donc à peu près fin 14e, début 15e. Et qui retrace l'histoire d'une lutte entre les troupes de ce roi, les Danois qui étaient en face, et d'autres familles qui décident de se lier ou pas à la couronne, qui vont lutter avec ce qu'ils appellent les montagnards. Et nous, on va suivre Mans, qui est un jeune personnage, un jeune homme d'une de cette famille-là, Stenson. Donc ça s'appelle La Malédiction des Stenson. Et qui va être envoyé par son père et son oncle auprès d'un puissant seigneur très proche du roi pour espionner, pour savoir si leur famille va avoir des problèmes et éventuellement peut-être se positionner le cul entre deux chaises, comme on dit, pour si c'est l'un qui gagne, eh ben on est là, si c'est l'autre, eh ben on est là quand même. Voilà. Franchement, c'est encore très bien écrit, c'est vraiment épique. Ça fait une fresque. Voilà, il a le souffle différent de ce qu'il avait dans sa précédente trilogie, mais il a un souffle d'écriture qui fait qu'on s'attache. Alors, il y a beaucoup de personnages, hein, comme dans sa précédente, 1793, etc. Mais on s'attache à tout le monde. Voilà, alors plus à certains qu'à d'autres. Moi, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé le personnage de Mance. Un peu à l'instar de ce qu'il avait fait pour le personnage de Cécile Vinge dans 1793 et les autres. Parce qu'il a toujours un personnage qui est très charismatique, même si c'est peut-être pas forcément le principal. En tous les cas, là, Mance, visiblement, c'est son fil rouge, mais vraiment, c'est épique. Alors, si vous aimez les romans historiques, les romans avec des capes et d'épées, mais avec des guerres internes, un peu moyenâgeuses, mais en Suède, et donc ça va vous apprendre l'histoire de la Suède, hein, de différentes rivalités qui ont fait le royaume de Suède, bon, écoutez, allez-y, ça s'appelle La Malédiction des Stenson, donc de Niklas Nat Hochdag. Alors, je vais vous parler du vieux livre. Voilà, alors le vieux livre, c'est Zobin de Maurice Guérin. Alors, je dois avouer que c'est Raymond Guérin, pourquoi je l'appelle Maurice, lui Raymond Guérin. En fait, c'est un livre dont un de mes vieux oncles m'avait parlé quand j'avais une quinzaine d'années. Il aimait beaucoup Raymond Guérin et il m'en avait fait lire deux autres. Et un jour, il m'a dit, il faudrait que tu lises celui-là parce que vraiment, c'est son chef-d'œuvre, mais pas loin. Et puis, si tu n'as pas lu celui-là, en fait, tu ne peux pas te dire être une grande lectrice et être une littéraire. Voilà. Donc, j'avais trouvé ça un peu cavalier quand même de me sortir ça. Mais voilà, je l'avais quand même gardé dans ma tête. Et il s'est trouvé que j'ai vu que Finitude avait ressorti le texte avec une postface qui est très intéressante. Puisque, en fait, ils éditent quelques vraies lettres de Raymond Guérin, puisqu'en fait c'est l'histoire, alors pas trop romancée, mais un peu l'histoire de son mariage raté. Donc il s'est fait un double qui s'appelle Zobin. Alors Zobin, c'est pas un double qu'il a créé, c'est son surnom, parce que quand il était au lycée, pour amuser ses potes, il disait « je vais Zobin » et pas « je vais au bain », au bain, vous savez, les bains publics. Et donc, il l'appelait Zobin. Donc, il s'est créé ce double où il va raconter l'histoire de son mariage avorté au bout de 4 ans, alors que les deux parties s'aiment. Alors, en fait, Zobin épouse une jeune femme, il est amoureux, elle est amoureuse, tout va bien dans le meilleur des mondes. Leurs 4 premières années de mariage se passent comme dans un rêve, presque. Simplement, au bout d'un moment, la jeune femme commence à avoir des troubles de santé. Donc, on trouve pas ce qu'elle a, on se demande. Donc, les médecins poussent les examens au plus haut, mais elle a rien. Et un jour, un examen va révéler que cette jeune femme, donc cette jeune mariée, enfin cette femme, est toujours vierge, 4 ans après son mariage. Donc en fait, le mariage n'a jamais été consommé et on apprend et on comprend que d'un côté comme de l'autre, il y avait des réticences. Alors d'un côté, c'était parce qu'il aimait trop sa femme et qu'il l'avait vénérée, qu'il la trouvait trop fragile, trop prude et qu'il avait peur de la choquer. Et de l'autre côté, voyant l'autre s'empêtrer dans le « mais pourquoi il ne me touche pas ? Est-ce que je suis suffisamment intéressante pour lui ?» Non, il ne me touche pas, donc ça veut dire que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas assez belle, qu'il ne m'aime pas. Et donc tout ça fait que ça tourne dans les petites têtes de tout le monde. Alors nous, on l'apprend par un courrier, c'est-à-dire c'est un peu un roman épistolaire où ce fameux Zobin s'adresse à un ami et il lui raconte ce qui se passe. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau roman sur les liens en fait d'un d'un homme et d'une femme, mais aussi les travers et les tourments de chacun. Alors, Finitude a mis cette postface en mettant des vraies lettres de Raymond Guérin, sa première femme, puisqu'il a épousé une deuxième femme après, avec qui ça s'est très très bien passé, donc visiblement c'était la première. Et on sent quand même le gâchis monumental de cette histoire, à travers bien sûr l'histoire de Zobin, mais bien sûr à travers les quelques lettres, vraies lettres, que Raymond Guérin et sa première épouse se sont échangées. Voilà, c'est un très très beau texte, et je comprends pourquoi mon vieux tonton a tant insisté pour que je lise ce livre-là, parce que franchement, c'eût été très dommage hein, de ne pas le lire une fois dans ma vie, donc comme quoi, voilà, il avait dit que c'était un livre à lire impérativement. Bah écoutez, Zobin, Raymond Guérin, et c'est chez Finitude, alors c'est une maison d'édition d'Aquitaine, donc autant se fournir chez des compatriotes. Allez, petite pause musicale et ensuite on va parler des 6 du classement de 2025 avec une petite pensée pour chacun d'entre eux, histoire que vous puissiez vous faire votre propre chemin parmi les 6. Et je peux vous assurer que les 6 que je vais vous citer, il y en a pour tous les goûts. Ah si, il y en a pour absolument tous les goûts. Allez, petite pause musicale, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Oui, parce qu'il y en a un des deux, ou plus ou moins, on évoque l'Alabama. Ah bah écoutez, avec le lutin, on cherche. Hein. Enfin, il est un peu endormi le lutin aujourd'hui, parce que je lui ai refilé mon rhume alors. Moi, j'ai presque plus de voix, lui, il a le rhume, il va crever. Enfin là, il est en train de... Bon bah là, il a affalé, hein. Ah bah si, si, il est tenu par un tuteur là. Ah ben je vous ai laissé Lynyrd Skynyrd jusqu'à la fin, Sweet Home Alabama. Alors, les six prochains sont donc toujours dans mon top 12 de l'année 2025, mais n'ont pas pu être plus haut, même si je les ai beaucoup aimés. Alors, le 7, c'est une poussée de fièvre de Timothy Egan, en fait, qui est l'histoire de la femme qui fit, chuter le Ku Klux Klan. Alors on est à la fin du 19e siècle et surtout début du 20e, entre les années 1890 et les années 1930, où le Ku Klux Klan est à l'apogée de son influence aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il a vraiment distillé sa politique et ses vues et ses idées dans toutes les strates de la société américaine. Ça va du simple shérif du coin au juge fédéral, et même dans les couloirs de la Maison Blanche. Ils ont un pouvoir absolument gigantesque, et l'argent qui va avec. Et Stephenson est le chef du clan. Jusqu'à ce qu'il se mette dans la tête de posséder littéralement et physiquement et violemment une jeune femme qui va d'abord lui résister parce que premièrement elle n'aime pas ses idées et elle l'envoie rapidement bouler, mais il va la faire enlever et elle va subir des sévices, que ce soit physique ou sexuel, puisqu'elle va être torturée, violée, menacée et laissée pour morte pratiquement jusqu'à ce que elle se décide sur son lit de mort, parce que malheureusement tous les sévices qu'elle a endurés font que son corps est en train de lâcher. Elle va porter plainte contre cet homme et contre le clan qui va les amener à un procès et à révéler ce qui s'est passé, à révéler les exactions dont elle a été témoin pendant sa captivité, non seulement sur elle mais sur les autres, puisqu'elle a récupéré des preuves aussi pendant sa captivité, et ça va les faire littéralement chuter dans l'opinion publique. C'est-à-dire que l'opinion publique jusqu'à présent trouvait que c'était pas mal comme idée, le clan, jusqu'à ce que ils comprennent les rouages, que certaines personnes du Ku Klux Klan arrosent les politiques, arrose les shérifs, arrose les juges, arrose les entrepreneurs, etc. Et donc ça, la population américaine de base ne va pas comprendre et ne va pas apprécier du tout. Donc vraiment, c'est un livre qui révolte autant qu'instruit. Si vous ne connaissez pas cette histoire-là, si vous ne connaissez pas comment s'est formé le clan, comment ils ont infesté, plus grandement les États du Sud des États-Unis, où ils sont encore présents, hein. On les voit se balader avec leur capuche blanche en forme de cône sur la tête, mais voilà, ils ont plus du tout, enfin, ils sont influents encore dans certaines couches de la société américaine, mais alors les bas du plafond, hein, on est bien d'accord sur la question, plus autant que sur l'ensemble de la population américaine de l'époque. Mais franchement, ils sont toujours là, mais ils n'ont plus du tout de sphère d'influence, ou très 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 peu, et en tous les cas suffisamment pour être contrecarrés par tout le monde. Mais c'est une très bonne enquête. C'est mené, ce livre-là, comme vraiment un roman. Voilà, vous le lisez comme si c'était une fiction, alors que vous savez que c'est la vérité, mais que voilà, c'est vraiment très très bien fait. Alors attention, il y a des propos, il y a des gestes, il y a des actions qui sont particulièrement très heurtantes et qui vont heurter surtout non seulement les âmes sensibles, mais les plus jeunes qui démarrent au quart de tour et qui se révoltent sur tout et qui comprennent pas, etc. Autre temps, autre mœurs, comme on dit souvent, malheureusement, eux, les mœurs, c'est des gros cons, hein. Ah, excusez-moi du terme, mais bon, voilà, à un moment donné, il faut appeler un chat, voilà. Mais c'est toujours très utile, surtout quand on voit la situation des États-Unis actuellement. Voilà, ça c'est fait, il y en a qui sont pas loin du clan, hein. Des idées, en tous les cas. Donc, on est au 8. Au 8, c'est Michael Prazan, dont je vous avais parlé pour Varlam, l'adoption de ce petit chat sur la route de la Colima. On y revient, la Colima. Là, c'est la passeuse. Alors, on est avec deux enfants, et surtout un qui est devenu adulte, qui est le papa de Michael Prazan, qui va témoigner pour l'histoire sur les relations et la trahison des juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale, lors d'une interview à l'INA. Et lors de cette interview, en fait, il apprend à son fils qui est présent, donc qui est réalisateur de documentaires et auteur, que en fait il a été conduit jusqu'à la zone de démarcation par une jeune femme qu'il devait appeler Tata avec ses deux enfants. On devait l'appeler Tata, en vérité il ne la connaissait pas, c'était une passeuse qui devait, puisqu'ils étaient juifs, les amener de la côté de la zone libre, simplement sur le quai de la dernière gare juste avant la zone de la ligne de démarcation. Le petit garçon saisit un regard que cette jeune femme adresse à un soldat allemand qui est dans la gare. Et ce petit garçon prend ça comme une trahison. Il est sûr que c'est une collabo, et donc il va avoir ce sentiment-là pendant des années. Il va même le raconter quand il arrive de l'autre côté, etc. Et de ce fait-là, en fait, Michael Prazan remonte l'histoire non seulement de son père, il y a des choses qu'il ne savait pas, mais surtout, il va chercher qui est cette jeune femme, si elle a survécu, si elle est toujours vivante, etc. Et il va apprendre, en fait, que c'était pas du tout ça, qu'elle-même a payé le prix de certaines choses qu'elle a faites, et que son père... qui dit n'avoir plus jamais eu de nouvelles de cette femme, en fait l'a recroisée un jour. Voilà. C'est un très très joli roman sur déjà premièrement le sort des enfants juifs français pendant la guerre et étrangers, mais voilà, et surtout sur la perception d'une situation que peut avoir une personne par rapport à quelque chose. C'est-à-dire, vous êtes... Bon, là, c'est des enfants, donc effectivement, ils n'ont pas la même vision du monde que nous. Mais même nous, quelquefois, on capte un regard, on voit un truc, etc. On se fait des films, comme on dit, sur quelque chose qui n'existe pas. Et ça nous est arrivé. Enfin, vous, moi, tout le monde, on se dit « Oh là là, mais ça n'a pas l'air bien. Ou, oh là là, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Alors que, non, il se passe rien. Et là, c'est pareil. Voilà. Et donc, ça va effectivement avoir un effet boule de neige pour la vie de tout le monde, y compris du papa de Michael Prazan, puisque lui, il va avoir cette blessure au cœur pendant un long moment. Autre livre qui vraiment alors m'a marqué, qui s'appelle « L'étrangère aux yeux bleus » de Yuri Rikkeu, qui en fait parle d'une jeune femme qui vient étudier les derniers descendants de cette ethnie de Sibérie arctique, on va dire, les Tchouktches, dont d'ailleurs Rikkeu est un descendant. Son père était chaman dans cette société-là, dans ce peuple-là. C'est une peuplade qui élève des rennes, qui est carrément pratiquement, enfin il en reste, mais pas en tant que grande peuplade, puisqu'ils ont été un peu exterminés par tous les régimes, on va dire, que ce soit impériaux ou soviétiques par la suite. Et cette jeune femme vient de Saint-Pétersbourg et de Moscou pour étudier. Et elle décide, elle rencontre un jeune homme de cette ethnie, elle l'épouse, elle décide de se faire épouser en se disant... Si je suis au plus près du peuple, je vais pouvoir les étudier de l'intérieur, etc. Personnellement, c'est un très beau roman sur cette... C'est une ode à ce peuple-là, à leur rite, à leur façon de vivre en harmonie avec la nature et les animaux et les forces de la terre, les forces de l'air, les forces du feu, les forces de ce que vous voulez. Vraiment, voilà, c'est vraiment une peuplade fascinante et on comprend qu'on veuille l'étudier, enfin à l'époque, mais le personnage féminin est la pire connasse que j'ai rencontrée. Voilà, je l'ai détesté. Comment détester un personnage dans un roman du début jusqu'à la fin, même dans les moments où elle pourrait apparaître, on va dire, vulnérable et que vous vous dites « Oh mince, quand même, là, non, la pauvre et tout. » Non, pas la pauvre, non, je l'ai détestée du début jusqu'à la fin. Mais ça en fait un personnage fascinant, vraiment. Parce que elle nous ouvre les portes de cette peuplade, même si elle, elle a des, un but caché, et on le sait parce qu'on a des parties de son journal de bord qui nous expliquent ce qu'elle fait. Alors évidemment, elle évolue hein, dans son idée, mais franchement, c'est un très très beau roman. Après, voilà, ça peut révolter aussi la façon dont elle les étudie un peu sous un microscope quand même, et que, dont elle joue beaucoup avec sa beauté, puisque c'est l'étrangère aux yeux bleus, en plus elle est très très belle, donc elle joue beaucoup sur cette histoire-là, et quelquefois un peu mal, on va dire. Autre livre, Outre-Monde, donne Delilio. Franchement, c'est un livre, c'est un ovni. Voilà, c'est un ovni, c'est 40 ans de la vie des États-Unis, on va dire des années 50 aux années 90, avec pratiquement plus de 200 pages sur un match de baseball mythique dans les années 50, où dans les tribunes, il y avait d'autres que Sinatra, G. Edgar Hoover, etc., etc. C'est un livre qui raconte, en fait, on va dire, toutes les arcanes de l'Amérique de ces années-là, que ce soit aux opérations de la CIA jusqu'à certains travers de l'Amérique, plongé dans certaines guerres, plongé dans certains traumatismes, notamment bah, évidemment la ségrégation, mais aussi le Vietnam qui va arriver, la conquête spatiale, les meurtres des présidents ou d'activistes notoires. Voilà, donc c'est vraiment 40 ans. Dans la guerre froide des États-Unis, mais au sein de la société américaine. C'est très étrange, c'est une écriture très, très complexe, et surtout, c'est une écriture qui est exigeante, c'est une lecture exigeante. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez lire en faisant des mots croisés, mais franchement, c'est très, très bon. Autre livre, avant-dernier, c'est Joli mois de mai de Alan Parks. Alors, je vais pas m'étaler 50 ans. Alan Parks, c'est donc le numéro 5 de sa saga sur Harry McCoy, donc son célèbre inspecteur Glasgow des années 70, des meurtres, de la mafia, de la corruption, de l'amitié, de l'amour, des conneries, sexe, drogue et rock'n'roll à Glasgow dans les années 70, sous la plume d'Alan Parks, avec un personnage de Harry McCoy qui est de mieux en mieux selon les opus, c'est-à-dire que si vous avez lu Janvier Noir, qui est le premier, vous dites à chaque fois c'est génial, et vous prenez le suivant, vous dites ah, il est encore meilleur, et le suivant, il est encore meilleur. Et donc là, on est au mois de mai, j'étais en train de me dire oh là là, mais ça c'est le meilleur de la saga, mais non, à mon avis, ça va être le cinquième. Voilà, franchement, si vous aimez les policiers, les années 70, Glasgow, la musique, sexe, drogue et rock'n'roll, un super personnage vraiment qui vous embarque avec ses forces et ses faiblesses, Harry McCoy, lisez la saga de Alan Parks, donc c'est chez Rivage Noir, hein, c'est en poche, et là le mois de juin est sorti en broché, mais j'attends qu'il sorte en poche pour le lire, mais moi j'ai lu un joli mois de mai, enfin en vérité ça s'appelle Joli mois de mai. Et le dernier, et on se quittera là-dessus, si vous voulez savoir plus sur un prédicateur contre l'abolition, et qui, Brown, donc, qui est très connu aux États-Unis, mais qui était un personnage très complexe, qui était autant détesté qu'admiré, et qui était lui-même très tourmenté et très étrange. Voilà, ça s'appelle Pourfendeur de nuages de Russell Banks, c'est véritablement c'est son fils qui raconte l'histoire de ce père qui était exigeant, très bigot, mais absolument contre l'esclavage et qui a trimballé sa famille de long en large des États-Unis pour prôner l'abolitionnisme aux États-Unis, etc. Mais bien sûr en étant extrême, hein, puisqu'il a fomenté des enlèvements et cautionné aussi des meurtres, etc. Donc franchement, c'est quelqu'un de très très bizarre, Brown, mais qui vaut le détour de savoir, un peu comme une poussière de fièvre. Voilà, ça, c'est l'Amérique toujours déchirée, et ça nous explique celle qu'elle est actuellement. Voilà, donc ça c'était les 12 livres coup de cœur de 2025 de Lisa. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller en chercher à la médiathèque, à la bibliothèque, à la librairie de coin, si ça vous intéresse. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. Hein, voilà. Alors Lisa va reposer sa voix, parce que là, ça commence à bien faire, mais je pense que ça va me tenir un moment. Voilà. Je ne suis pas sûre que la semaine prochaine, vous n'ayez pas encore cette voix de canard. Et nous, on va vous souhaiter, bah, qu'est-ce qu'on vous souhaite, lutin ? À manger, oui, voilà. Oh, bah, l'autre, alors, il est à moitié mort et il pense qu'à bouffer. Alors, écoutez, nous, on s'occupe de vos petites oreilles sur Liberté FM. Vous vous occupez de vous, de vos proches et de ceux que vous aimez. Là, maintenant, bon appétit. On se retrouve la semaine prochaine avec le point ciné de ce qu'on a vu au mois de janvier. On a vu 4 films et alors 4 très, très bons films. Waouh! Ah oui, ah, waouh. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, on se quitte avec le choix du lutin. C'est pas moi qui l'ai choisi. Ah bah ça, c'est... Ah bah moi, je balance de toute façon, donc voilà. On se quitte avec Taylor Swift, Look What You Make Me Do. Bah voilà, regarde ce que tu m'as fait faire, voilà. Annoncez Taylor Swift quand même. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous, à la semaine prochaine, puisque, bah, évidemment, ça sera le bilan de ciné de janvier. Ciao, bonne semaine sur Liberté FM. Un bisou. Alors, mais mourir, hein? Ah, mais mourir. I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play. The fool. No, I don't like you. Don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool, no I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, oh. Look what you made me do, look what you made me do. Look what you just made me do, look what you just made me. Ooh, look what you made me do, look what you made me do. Look what you just made me do, look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep. Locked me out and threw a feast. The world moves on, another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. Check it once, then I check it twice. Oh, oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old tailor can't come to the phone right now. Why? She's dead. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do.